L'heure du journal avec vous, Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir. Quand Greenpeace teste les installations nucléaires françaises, l'ONG a envoyé un drone et un avion miniature au-dessus de la centrale du Bugey dans l'Ain. Objectif, montrer la vulnérabilité de ces installations. Les explications de Véronique Rebérotte dans un instant. Geoffroy Roux de Bézieux succède à Pierre Gattaz à la tête du MEDEF. Le nouveau patron des patrons veut faire de son organisation une force de proposition. Nous verrons cela avec Catherine Pétillon. La colère des présidents des associations de collectivités locales, régions, départements et municipalités. Ils vont boycotter la prochaine conférence des territoires pour dénoncer les économies budgétaires imposées par le gouvernement. Un dossier suivi par Stéphane Robert. L'hécatombe reprend en Méditerranée. Au moins 180 migrants morts ou disparus au large des côtes libyennes depuis ce week-end. Les bateaux des ONG sont moins nombreux sur zone, nous expliquera Marie-Pierre Véraud. Greenpeace a frappé fort aujourd'hui. L'organisation écologiste a réussi à faire voler un drone et un avion radiocommandé au-dessus de la centrale du Bugey dans l'Ain. Mieux encore, les deux appareils sans pilote sont allés s'écraser délibérément sur le mur de la piscine de stockage du combustible usagé. Véronique Rebérotte, bonsoir.
Bonsoir.
Cette double intrusion aérienne dans l'enceinte d'une centrale va bien sûr relancer le débat sur la sécurité des installations nucléaires et c'est exactement le but recherché par Greenpeace.
Une sécurité défaillante, et ce, plusieurs fois par jour et même au même endroit après le crash volontaire donc d'un drone habillé en Superman ce matin, le crash tout aussi volontaire au même endroit, le mur de la piscine d'entreposage du combustible usé du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire du Bugey, d'un avion radiocommandé, endroit le plus sensible de la centrale après le réacteur, aucun des aéronefs interceptés, action bis repetita, explique le directeur général de Greenpeace, Jean-François Julliard, pour une même démonstration.
Pour montrer une fois de plus à quel point ces centrales sont vulnérables, pour montrer à quel point le bâtiment qui abrite la piscine de combustible usé, donc une forte concentration de matière radioactive, n'est absolument pas sécurisé. Imaginons si ça avait été un engin malveillant ou une action malveillante. Et on attend des recommandations à l'égard d'EDF, des recommandations fortes sur la question du nucléaire, parce que preuve en est, les centrales nucléaires ne sont pas sécurisées en France. On espère que les parlementaires l'ont bien compris et on espère qu'ils vont faire savoir qu'ils ont des attentes très fortes vis-à-vis d'EDF et de l'opérateur des centrales nucléaires.
EDF a porté plainte, le survol d'une centrale par un drone est interdit. Plusieurs centrales nucléaires françaises ont ainsi été survolées, d'ailleurs, souvenez-vous, l'an passé, sans que l'on sache qui pilotait les engins. EDF assure que les actions d'aujourd'hui n'ont aucune conséquence sur la sûreté des centrales nucléaires. L'opérateur qui affirme contrôler la situation même, et cela a été le cas en novembre dernier, si 22 militants de Greenpeace s'étaient introduits dans la centrale nucléaire du Cruas en Ardèche, déjà pour alerter sur la vulnérabilité des piscines. Les militants qui s'étaient filmés au pied des piscines viennent d'être condamnés à la prison avec sursis.
Véronique Rebérotte, merci. À noter que la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires présentera jeudi son nouveau rapport à l'Assemblée. Le MEDEF ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l'élection de Geoffroy Roux de Bézieux à sa présidence. Le patron du groupe Notus Technologies l'a emporté avec 55,8% des voix face à son rival Alexandre Sobo. Catherine Pétillon, bonsoir.
Bonsoir.
En succédant à Pierre Gattaz à la tête du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux entend faire de l'organisation patronale une force de proposition.
Oui, c'est en tout cas sa formule, passer du MEDEF de combat, c'est-à-dire pour dire vite obtenir des avantages fiscaux et réglementaires, à un MEDEF de proposition. En se présentant comme l'homme de la transformation numérique, Geoffroy Roux de Bézieux veut incarner une vision qu'il dit rénovée de l'entreprise. Une des clés de sa victoire, estime l'éphémère candidate à la présidence Dominique Carlac, désormais membre de son équipe.
Il gagne sur une posture neuve et c'est ça qui a payé à mon avis au bout du compte. C'est, je pense, la capacité à se projeter dans le futur pour savoir quel sera l'impact du rôle de nos entreprises et du rôle des entrepreneurs. Je pense que ça a donné vraiment de la fierté aux entrepreneurs.
GRB, comme il est surnommé, prend la tête du mouvement à un moment où il est paradoxalement mis en difficulté. Si d'un côté l'exécutif soigne les entrepreneurs, de l'autre il n'hésite pas à ranger le MEDEF avec d'autres au rang des structures obsolètes. Geoffroy Roux de Bézieux.
De nombreux observateurs anticipent, voire certains se réjouissent, d'une prétendue fin des corps intermédiaires. Mais je vous le dis sans détour, l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général, soyez-en convaincus. L'intérêt général, c'est un objet politique non identifié que chacun revendique. Mais pour moi, les entrepreneurs en font partie. Les Français savent que demain, ce sont nous, les entrepreneurs, qui allons changer le monde.
Et au-delà de ce rôle revendiqué de transformation de la société, se pose la question des négociations avec l'État et les syndicats. Rode Bézieux, connu pour son peu de goût pour le social, le dit clairement, il plaide pour un dialogue avant tout économique et a pu avoir des mots durs pour le paritarisme. D'ailleurs, Pascal Pavageau, secrétaire général de EFO, a réagi cet après-midi à son élection en espérant, je cite, qu'il ne se comportera pas comme un lobby et acceptera de construire un agenda social avec les syndicats dès septembre. Rode Bézieux, lui, a reçu les félicitations sobres de Bruno Le Maire, qu'il a appelé à se mettre au travail.
Catherine Pétillon, merci. On revient sur cette élection de Geoffroy Rode Bézieux à la tête du MEDEF dans le grain à moudre d'été, juste après ce journal. Le gouvernement doit faire face à une fronde inédite des collectivités locales. Les présidents des associations des régions, départements et maires de France vont boycotter la Conférence nationale des territoires le 12 juillet. Hervé Morin, Dominique Bussereau et François Baroin ont beau appartenir à la droite modérée, souvent en phase avec Emmanuel Macron, ils n'acceptent plus aujourd'hui les sacrifices demandés. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Les patrons des collectivités locales qui dénoncent les économies budgétaires que le gouvernement veut leur imposer.
Oui, ça fait un an qu'a démarré une sorte de bras de fer entre l'exécutif et les collectivités, car depuis un an, Emmanuel Macron réclame 13 milliards d'euros d'économies aux 320 collectivités territoriales les plus importantes. Et on pensait, il y a quelques jours encore, que c'était en passe de se régler, puisque 70% d'entre elles avaient accepté et signé le contrat proposé, mais pas les départements. Et il y a deux semaines environ, une majorité d'entre eux ont indiqué qu'ils refusaient de se plier aux exigences. Et du coup, Édouard Philippe a répondu, lui, il y a quelques jours, en supprimant les petites compensations qu'il avait accordées en échange de leur bonne volonté, comme par exemple la revalorisation des taux plafonds des frais de notaire qui devait rendre au département quelques centaines de millions d'euros. Résultat, le président de l'Association des départements de France, Dominique Bussereau, parle d'une claque inacceptable.
Ah oui, on a reçu une claque. On a le RSA qui augmente actuellement. La population vieillit. L'allocation pour les personnes âgées, on en donne de plus en plus. On prend mieux en compte le handicap. Donc tout ça nécessitait des solutions. Le gouvernement nous les avait proposées. Et puis comme un certain nombre de départements n'ont pas voulu signer les contrats pour des raisons qui leur appartiennent, du jour au lendemain, on l'a appris par la presse, on nous a retiré ces propositions. Donc c'est vraiment un gâchis. Il faudra que l'État mette à nouveau beaucoup de choses sur la table pour que nous puissions reprendre le dialogue.
Le plus embêtant pour le gouvernement est que la fronde des départements a réveillé les frustrations des autres collectivités, les régions de France ainsi que l'association des maires, qui n'a pas encore digéré la suppression de la taxe d'habitation. André Léniel en est le vice-président.
Aujourd'hui, le gouvernement veut étouffer les collectivités locales, au détriment des citoyens et au détriment de nos communes, de nos départements et de nos régions. Et donc, ça n'est pas acceptable.
Ces trois associations, les trois plus importantes représentant les collectivités locales, ont donc décidé de ne pas participer à la troisième conférence des territoires le 12 juillet prochain, ni à la réunion préparatoire prévue demain. L'exécutif devra se contenter de discuter avec les associations représentant les grandes villes, les villes moyennes et les intercommunalités.
Stéphane Robert, merci. Revenons à présent sur ce rapport sénatorial qui pointe le mal-être des forces de l'ordre. 6 mois d'enquête sur les conditions de travail dégradées des policiers et gendarmes. Avec à l'arrivée un constat implacable, les moyens matériels manquent alors que les missions se multiplient, notamment en raison de la menace terroriste. Jean-Marc Bailleul est le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et pour lui, aucun doute, ce rapport doit inspirer une vraie réforme des forces de l'ordre.
Est-ce qu'il n'est pas temps, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, de remettre tout à plat, de mutualiser, d'éviter les concurrents, justement pour avoir des effectifs plus importants qui travaillent sur les mêmes matières et qui permettent à la fois d'avoir un meilleur service pour le public, et il est logique qu'ils demandent des comptes, et aussi permettre aux policiers de pouvoir concilier une vie professionnelle qui est très intense avec une vie sociale, sociétale, beaucoup plus équilibrée. Tant qu'on ne réformera pas et qu'on restera sur des vieux concepts, on pourra refaire le même constat parce qu'en fait, on a pour la première fois une commission sénatoriale qui va loin. Mais si il n'y a pas de décision pour que ceux qui sont aux manettes changent leur paradigme d'approche de la sécurité, on refera le même constat. Voilà, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est triste, c'est un peu fataliste comme constat, mais c'est une réalité. Il y a des solutions, il faut simplement faire la révolution.
Le syndicaliste policier Jean-Marc Bailleul, il répondait à Lucas Caltritti. Depuis la semaine dernière, la cour d'assises de Créteil juge 3 individus pour une violente agression antisémite en 2014 dans la ville. Les victimes, un jeune juif et sa compagne agressés chez eux. Lors d'un cambriolage qui a dégénéré, la jeune femme a été violée par l'un des agresseurs. La cour d'assises a procédé aujourd'hui à l'interrogatoire du violeur présumé. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Marette.
L'Adji Haïdara est du genre nerveux. Dans le passé, il a insulté à plusieurs reprises le juge d'instruction. Aujourd'hui, au tribunal, il n'élève pas la voix, mais sa nervosité est palpable. Les trois cambrioleurs étaient masqués, mais le couple victime a remarqué que l'un d'entre eux était de type arabe et les deux autres de type africain. Et c'est l'un des deux hommes noirs qui a violé Laurine. Elle n'a pas vu son visage, mais elle a entendu la voix des deux hommes. Et c'est l'Adji Haïdara qui se retrouve donc accusé du viol de la jeune femme. Dans un premier temps, il a tout nié en bloc avant d'écrire une lettre au juge d'instruction dans laquelle il reconnaît sa participation au cambriolage, mais il nie le viol et toute dimension antisémite. Une de ses amies juives vient d'ailleurs témoigner à la barre en sa faveur. Son dossier précise qu'il a été en couple pendant un an et demi avec une femme, elle aussi juive. « C'est vous qui êtes à l'origine du choix de l'appartement où a eu lieu le cambriolage ?» demande le président à l'accusé. Il acquiesce de la tête. « Pourquoi avoir ciblé cette famille ?»« Ils avaient l'air riches, ils avaient une belle voiture, » répond-il. Mais le jeune homme se défend de tout antisémitisme. Quand le président lui demande des détails sur les faits, il perd patience, puis se mure dans le silence. Un avocat des parties civiles tente de l'amadouer. « Nous respectons votre droit au silence. » Mais êtes-vous disposé à répondre aux parties civiles ? Je veux bien, mais vous allez me prendre pour un menteur. Je regrette ce qui s'est passé. J'ai mal pour les victimes, Laurine et Jonathan. Moi aussi j'ai un cœur. Je ne suis pas un monstre. Mais vous savez, moi aussi je la porte, la douleur. Je suis accusé de viol et c'est faux.
Antoine Marette, depuis le palais de justice de Créteil, a noté que le troisième suspect de cette agression antisémite est jugé par défaut, puisqu'il a pris la fuite vers l'Algérie quelques jours après les faits. Alors que la crise migratoire continue à déchirer le continent européen, les naufrages mortels se poursuivent en Méditerranée et le bilan est lourd sur les 5 derniers jours. 180 morts ou disparus, le plus souvent au large des côtes libyennes. À chaque fois, des embarcations surchargées de migrants qui chavirent. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
La situation est d'autant plus dramatique que les navires des ONG sont de moins en moins nombreux en Méditerranée.
Les ONG n'effectuent certes que 10% des sauvetages, mais leurs bateaux sont bien équipés pour les secours, disposent par exemple d'équipes médicales et d'un savoir-faire que n'ont pas les bateaux de la marine marchande. Il n'est pas rare qu'un sauvetage mal coordonné ne provoque un naufrage. La mise sous séquestre des bâtiments des ONG et la fermeture des ports italiens, souvent les plus proches pour le débarquement, vont d'évidence accroître le nombre de morts et faire aussi disparaître des témoins précieux. Et ce, alors que se multiplient les passages vers l'Europe, parce que le temps est plus clément et avant que l'Europe ne se ferme, selon l'Organisation internationale des migrations. Près de 180 morts ou disparus ces 5 derniers jours, vous le disiez, 1405 depuis le début de l'année selon l'OIM, un chiffre sans doute en deçà de la réalité. Ce mardi, ce sont au moins 7 personnes dont 2 enfants qui ont péri non loin des côtes libyennes, tandis que les gardes-côtes libyens ont secouré 123 autres. Dimanche, 63 migrants ont été portés disparus sur 104. Vendredi, toujours dans la même zone à l'est de Tripoli, une centaine de personnes ont disparu en mer, dont de nombreuses femmes et enfants. Les corps de 3 bébés ont été repêchés. Seuls 16 migrants ont pu être sauvés. Et le rôle grandissant confié par l'Europe à la Libye pour qu'elle retienne ou aille secourir ces migrants au large de ses côtes ne laisse aussi d'inquiéter. D'abord parce que la Libye est tout sauf un pays sûr pour les migrants qui y sont renvoyés. Ensuite parce que les gardes-côtes libyens manquent de moyens, de volonté ou de compétences pour sauver. Les témoignages abondent. Rappelons également que le mois dernier, l'ONU a placé sous sanction 4 Libyens impliqués dans le trafic de migrants. L'un d'eux n'est autre que le commandant de secteur des gardes-côtes libyens.
Marie-Pierre Véraud, merci. Cette crise migratoire qui alimente la crise politique en Allemagne, la CDU de la chancelière Angela Merkel et la CSU du ministre de l'Intérieur Horst Seehofer ont trouvé un accord hier soir. Texte qui restreint l'accueil des migrants outre-Rhin. Il est même question de centres de transit à la frontière autrichienne. Cet accord doit encore être validé par le troisième partenaire de la coalition, le SPD, lors d'une réunion prévue ce soir à Berlin. Nouvelle polémique en perspective en Pologne. La présidence polonaise a annoncé aujourd'hui que la présidente de la Cour suprême, Malgorzata Gersdorf, prenait sa retraite. Et cela conformément à une réforme introduite par les conservateurs au pouvoir. Réforme fermement critiquée par la Commission européenne. Malgorzata Gersdorf, qui avait auparavant refusé de quitter ses fonctions, n'a pas commenté cette décision. Là, un mot de la météo. Demain, le temps restera orageux sur les trois quarts du pays, de l'Aquitaine au nord et au Grand Est. Le soleil s'imposera sur les régions méditerranéennes. Température minimale de 15 à 22 degrés du nord au sud. Les maximales toujours élevées iront de 21 degrés près de la Manche à 33 degrés dans le sud-est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.